C'est ce dimanche, le quatrième dimanche après l'Épiphanie. Nous sommes toujours, selon les livres liturgiques de 1962, au temps après l'Épiphanie, qui commence au lendemain de l'octave de cette fête, et va jusqu'à la septuagésime pour le cycle temporal, et jusqu'au 2 février, fête de la purification pour le cycle sanctoral. Alors que les fêtes de la Nativité et de l'Épiphanie, qui tombent toujours le 25 décembre et le 6 janvier, donnent au cycle de Noël un caractère de grande fixité, le cycle de Pâques, essentiellement tributaire de la lune pascale, est nécessairement mobile. Aussi, lorsque la fête de la résurrection, qui peut tomber entre les dates du 22 mars et du 25 avril, est précoce, le 9e dimanche qui précède et qui est celui de la septuagésime empiète sur le temps après l'Épiphanie qui, comptant normalement 6 dimanches, est ainsi parfois réduite à 1 ou 2 dimanches. Pardonnez-moi, cher ami auditeur, j'essaie d'être clair, mais le sujet est complexe. Je vais l'exprimer autrement. Nous avons dit que les deux dates extrêmes de Pâques sont le 22 mars et le 25 avril. Si la fête de Pâques tombe à la fête la plus rapprochée, le 22 mars, il n'y aura qu'un dimanche après l'octave de l'Épiphanie jusqu'à la septuagésime. Ce fut ainsi en 2008. Dans ce cas, les dimanches omis, oraison, épître, évangile, sont remis à la fin de l'année liturgique, avant le 24e ou dernier dimanche après la Pentecôte. Au contraire, si Pâques tombe le 25 avril, il y aura le maximum de 6 dimanches avant la septuagésime. Ce fut ainsi le cas en 2011. Il faut toujours, pour votre gouverne, consulter le calendrier liturgique. Nous sommes donc encore, si vous m'avez bien suivi, durant le cycle de Noël qui ne s'achèvera qu'avec le début du temps de la septuagésime, inaugurant le cycle de Pâques. Je vous ai fait entendre les 5 pièces du propre de ce 3e dimanche après l'Épiphanie la semaine dernière. Nous allons les réécouter dans des interprétations différentes et je vais également changer les commentaires. Je ferai appel à Don Ludovic Baron grâce à son ouvrage « L'expression du chant grégorien » en 3 volumes qui est apparu en 1948. Ce grand maître de chœur de l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan n'est peut-être pas connu de tous nos auditeurs et je vais donc en profiter pour vous résumer son intéressante biographie avant chacun des 5 chants. Je m'inspirerai abondamment d'un numéro de la revue « Sous le regard de Dieu » paru en 1997, revue de l'association « Les Amis de l'abbaye de Kergonan ». Ludovic Baron est né dans le Morbihan en 1894. Ayant fait toutes ses études dans le diocèse, il y fut ordonné prêtre et enseigna au petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray, où il fut maître de chapelle et organiste de la basilique. 2 années consécutives, au cours des vacances scolaires, il s'était rendu à Paris afin d'y parfaire ses connaissances musicales sous la direction de maîtres tels que Messieurs Potiron et Decaux. Quoique de tempérament actif, il se sentait attiré par la vie contemplative et liturgique. Il entra à Kergonan en 1926. Il y retrouvait comme maître des novices Don Hervé, auquel, bientôt, il succéderait comme maître de chœur. C'est, de fait, dans l'enseignement du chant grégorien que Don Baron devait donner toute sa mesure et acquérir un renom qu'il ne s'est pas encore effacé. Adepte de la méthode de Solesme qui l'enthousiasme, il se montre didactique, sinon toujours patient, pour initier un chœur encore quasi ignorant de l'importance du rythme, du grand rythme surtout. Il se donne à cette tâche avec son ardeur native, en attendant que lui soit ouvert un plus grand champ d'action. Passons, si vous le voulez bien, à l'introïte de cette messe, dont le texte est issu du psaume 96. « Adorate Deum omnes angeli eius audivit et letata est Sion, et exultaverunt filii Iudae. » Adorez Dieu, tous ses anges. Sion a entendu et s'est réjoui, et les filles de Juda ont exulté. Écoutons donc, Baron. La mélodie est incontestablement revêtue d'autorité dans la première phrase. La douceur n'en est pas exclue, mais c'est bien une volonté qui s'impose. Cette volonté très nette dès l'intonation sur l'impératif de adorate. Dans les deux autres phrases, c'est la joie. Joie de l'Église qui voit le Christ et tous ses membres dans l'adoration éternelle du Père, accomplissant enfin le geste en vue duquel tout a été fait. Un autre sentiment se fait jour dans la dernière incise, la tendresse qui s'éveille dans l'âme à l'idée des filles de Judas. Le mot est à prendre dans un sens poétique. Il s'agit des villes de Judée, filles de Jérusalem, mais pour nous, c'est toute la Jérusalem céleste, toute la terre de Dieu et son peuple d'élus qui est évoquée là et enveloppée de respect et d'admiration. Nous entendrons ensuite le premier verset du psaume 96, celui que nous retrouverons dans l'Alléluia, « Dominus regnavit exultet terra, detentur insule multe ». Le Seigneur est roi, la terre exulte, les îles innombrables se réjouissent. Écoutons les moines bénédictins de l'abbaye de Triors, dont les voix sont bien connues de nos auditeurs. C'est en 1930, semble-t-il, que s'inaugure l'apostolat grégorien hors clôture du Père Baron par une session tenue chez les filles du Saint-Esprit de Saint-Brieuc. Puis ce sont des cours de chant à une scola de Brest, les journées grégoriennes près de l'Orient en 1932. En 1934, c'est la journée des maîtrises à Carnac, avec messe pontificale présidée par Don de Mazure, père abbé de Kergonan, et conférence de Don Baron. Malheureusement, quelques mois plus tard, très déprimé et fatigué, le père doit s'exiler en Angleterre, où les filles du Saint-Esprit, de Pontypool, l'accueillent comme aumônier. Don Baron ne devait rentrer définitivement en France qu'en 1946, ayant profité largement de son séjour anglais pour distribuer la bonne parole grégorienne dans son pays d'accueil. Revenons à notre propre grégorien. Le texte du graduel du troisième dimanche après l'épiphanie qui va suivre l'introïde que nous venons d'entendre provient du psaume 101, longue plainte du peuple juif en captivité. Timebun gentes nomen tuum domine, et omnes reges tere gloriam tuam. Les nations craindront votre nom, Seigneur, et tous les rois de la terre craindront votre gloire. Puis le verset, car le Seigneur a rebâti Sion, et il y paraîtra dans sa majesté. La mélodie reprend des formules connues dans une tonalité de joie alerte. Laissons Don Baron s'exprimer sur le sens biblique du texte. Par-delà la cité matérielle relevée de ses ruines, est évoquée la Jérusalem céleste, où le Verbe fait chair. Nom substantiel de Dieu, dominera tous les rois, et sera vu dans la majesté de son infinie splendeur. Les miracles et les enseignements pleins de sagesse de notre Seigneur, que la liturgie fait revivre en ces dimanches après l'Épiphanie, furent les premiers actes par lesquels il faisait reconnaître la puissance de son nom divin, comme aussi les premiers fondements de la Jérusalem nouvelle. La prophétie du psaume commençait donc à s'accomplir. L'Église la redit ici dans la joie de l'avoir réalisée en ces événements merveilleux, de la voir s'accomplir de plus en plus au cours du temps. Puis, se tournant vers l'avenir et lui gardant son sens prophétique, elle la chante comme la vision future de l'éternité déjà évoquée dans l'introïte, quand le Christ, après avoir achevé la Jérusalem nouvelle, y régnera dans la splendeur d'une gloire incontestée et reconnue de tous les peuples soumis dans l'amour. Fin de citation. Les 4 années qui suivent son retour en France, en 1946, sont sans doute les plus fécondes de l'apostolat grégorien du Père Baron. Dans le diocèse et dans toute la Bretagne, son nom figure, la plupart du temps, en première place sur tous les programmes, au point qu'on a l'impression qu'il incarne en quelque sorte le chant grégorien dans toute la région. Grâce à la Semaine religieuse de Vannes, on peut suivre, presque de mois en mois, son activité. Dès 1946, il est à la journée des maîtrises qui se tient à Vannes, où ses explications sont illustrées par les enfants de Notre-Dame de Joie. En 1947, La journée des maîtrises a lieu à, précisément, Notre-Dame de Joie de Pontivy. Une brochure polycopiée a été préparée, comportant la chironomie de toutes les pièces et leurs commentaires détaillés par Dom Baron, qui prend pour thème de sa conférence « La joie dans l'année liturgique », dont de Mazure préside. Annonçant la journée des maîtrises de 1948 à Ploërmel, la semaine religieuse précise « Le révérend père Baron, maître de chœur de l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan, sera encore des nôtres et fera la causerie de l'après-midi, illustrée par des pièces grégoriennes. » L'école grégorienne de Bretagne semble avoir pris naissance à Ploërmel au cours d'une session de l'été 1947, dont le compte-rendu nomme la plupart des protagonistes des sessions futures. On y trouve mentionné Auguste Le Guénan, l'abbé Martin Le Serre, etc. Et l'on y apprend que le bel humour de Dom Baron a empêché de sentir la fatigue et même la chaleur. Les années suivantes, les sessions de l'école grégorienne de Bretagne auront lieu à Saint-Brieuc, Quimper, Rennes, Vannes, toujours orchestrées par le maestro de Kergonan avec une bonhomie pleine d'aisance et d'à-propos. Fin de citation. Comme nous l'avons dit, le texte de l'Alléluia est le premier verset du psaume psalmodié à l'introvite. Le Seigneur est roi, la terre exulte, les îles innombrables se réjouissent. Donnons la parole au moine bénédictin. Mélodie type déjà entendue le premier dimanche de l'Avent et à la messe de minuit. On l'entendra à nouveau le samedi de Pâques et pour l'Ascension. Les textes qu'elle revêt sont différents, mais ils se rapportent tous à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est en quelque sorte le leitmotiv qui chante les diverses étapes du voyage divin. L'attente du Sauveur, sa naissance, son règne qui commence avec sa vie publique, sa résurrection, son ascension. L'expression varie avec les mots, mais la joie est toujours là. Même le premier dimanche de l'Avent, alors que le texte est une supplication, à l'évocation du Sauveur, la prière, nous l'avions vu, fait place sur « Salutare tuum » à une contemplation heureuse. Ici, il n'y a pas autre chose. De la première à la dernière note, l'allégresse est partout. Elle revêt au début une certaine ardeur sur « Regnavit », puis se fait légère et paisible tout le long des neumes qui se déroulent, avec, ici et là, des accents qui révèlent de quel amour profond elle jaillit. Et Dom Baron précise pour ses chantres, « Bien que ce soit une invitation à la joie, il ne faut pas presser le mouvement, qu'il soit retenu, mais sans lenteur, et bien vivant. »
Oh.
Au début de 1947, la Semaine religieuse annonce la publication d'un important ouvrage de Don Baron, Expression du chant grégorien, commentaire liturgique et musical des principales pièces du temporal et du sanctoral, le premier volume, de l'Avent à Pâques, devant paraître incessamment. Le père avait, en effet, mis à profit ses loisirs anglais pour écrire ce livre, qui n'avait pas encore d'équivalent et qui était attendu de tous ceux qui s'intéressaient au chant grégorien. Le second volume, de Pâques à l'Avent, parut dès 1948, et le troisième, consacré au sanctoral, sortit des presses en 1950. Plus qu'une technique savante, l'auteur offrait là un manuel de spiritualité grégorienne, où l'expression musicale est comprise comme la manifestation intelligente de la ferveur intérieure. Fin de citation. Cet ouvrage est officiellement épuisé. On le trouve chez les bouquinistes, mais il n'est guère facile de réunir les trois volumes de la collection. Je ne suis pas sûr que la réédition effectuée en 2008 par les éditions Saint-Rémy soit reconnue, mais force est de reconnaître qu'elle existe. Les trois ouvrages, soit un total de 1182 pages, sont disponibles sur Internet à des prix variant entre 60 et 90 euros. Contemporain de l'apostolat fécond de Don Baron est le père Lucien Dès qui dirigeait la Schola des Pères du Saint-Esprit du Grand Scolastica de Cheville. Ce sont ces séminaristes qui chantaient, en 1953, la belle pièce que nous allons entendre. J'ai cité le magnifique chant de grâce qu'est l'offertoire du troisième dimanche après l'Épiphanie, dont les paroles proviennent du psaume 117. « Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exalta vit me. » La droite du Seigneur a exercé sa puissance, la droite du Seigneur m'a relevé. « Non moriar sed vivam et narrabo opera Domini. » Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. La mélodie commence par se complaire sur « Dextera Domini » en une sorte d'admiration reconnaissante et de vénération qui se courbe aussi bas que possible sur le nom divin. La louange y est déjà, mais comme retenue par la contemplation. Ce n'est qu'à partir de « Fecit virtutem » qu'elle s'exalte. Alors, comme si elle prenait peu à peu conscience de tout ce que Dieu a fait dans le Christ et en elle, l'âme se laisse gagner par l'enthousiasme. Il monte, grandit, éclate sur la note du sommet, passe dans la phrase suivante et y prend sur « Dextera Domini » une ardeur de plus en plus intense qui pénètre tous les mots d'un courant de joie éclatante et les lance comme une proclamation glorieuse. Cette ardeur se pénètre au début de la troisième phrase d'une inébranlable certitude. Celle-ci, toutefois, a moins d'éclat. Il commence à s'y insinuer une certaine douceur qui va se répandre sur les rythmes ternaires de « Vivam » et pénétrer peu à peu la dernière incise qui chante, elle, la louange paisible de l'éternité. Elle s'achève sur l'admirable formule de Domini qui berce pour finir l'ardeur de notre désir.
Thank you.
Dom Baron, dont la santé s'est altérée, passe ces dernières années loin de sa chère abbaye et de la Bretagne, au service successivement de deux communautés de moniales, tout en continuant à faire rayonner le grégorien. Voyage en Scandinavie, leçon de chant au trappiste de Spencer au Massachusetts, 1954, puis nouveau voyage aux États-Unis où il fait apprécier l'art grégorien en 1955. On se demandera sans doute ce qui valait à Dom Baron une telle audience et un si franc succès. Sa compétence, assurément, son sens pédagogique, une rare facilité de parole, jointe à une mimique variée et inimitable. Il avait une façon de présenter les choses qui n'était qu'à lui. Mais il faut noter aussi son caractère enjoué, sa gaieté, la finesse de son esprit et une savoureuse bonhomie. Dom Baron mourut subitement le 27 octobre 1957 à Sainte-Geneviève-des-Bois, près de Versailles. Le texte de la communion du troisième dimanche après l'Épiphanie est un passage de l'Évangile, mais il ne s'agit pas de l'Évangile du jour. Mirabantur omnes de his qui procedebante ore dei. Tous étaient stupéfaits des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Le maître de chœur breton précise. C'est le résumé du verset 22 du chapitre 4 de Saint-Luc. Il nous livre l'impression des habitants de Nazareth lorsqu'ils entendirent notre Seigneur parler, pour la première fois, dans leur synagogue. Ces mots sont bien à leur place ici, car ce fut sans doute la même admiration après chacun de ces miracles. Mais il ne faut pas se contenter de les entendre dans ce sens historique. L'Église les chante en effet comme l'expression de notre admiration pour ce que nous entendons du Christ dans l'Évangile, dans l'enseignement de l'Église, dans l'Eucharistie, et non seulement du Christ, mais des trois divines personnes qui habitent en notre âme et qui parlent à qui sait les entendre. La mélodie commence par évoquer d'une façon très heureuse, sur Mirabantur, l'admiration qu'elle décrit. Elle signale ensuite les paroles divines par une gracieuse montée sur le « Deis » et s'achève par un motif de tendre vénération sur « De ore Dei ». Vous êtes, chers amis internautes, sur le site Dona Voce France, à l'écoute de l'émission « Chant grégorien, prière chantée », présentée chaque semaine, dès le lundi précédant le dimanche. N'hésitez pas, une fois l'écoute achevée, à visiter notre site. Je vous remercie de votre fidélité, de votre aide dont nous avons besoin pour continuer à diffuser ce chant officiel de l'Église catholique romaine, pour qu'il revienne, comme il le doit, dans toutes les messes. C'est l'association Navoce qui réalise et produit ces émissions radiophoniques. Nous suivons là, à notre humble niveau, le Père Baron qui a usé aussi de ce moyen pour diffuser le chant grégorien. Écoutons encore ce qu'écrit la revue Le Regard de Dieu. On l'aura remarqué, Don de Mazure, qui fut abbé de Kergonan pendant près de 30 ans, encourageait Dom Baron et son apostolat en honorant de sa présence les grandes manifestations grégoriennes en Bretagne. C'est également sous son abbatiat que furent chantées la plupart des messes radio diffusées de l'abbaye, exactement entre 1947 et 1959. Pour les moines, c'était l'occasion de bénéficier des conseils de M. Auguste Le Guénan, directeur de l'Institut grégorien de Paris, qui, chaque fois, venait préparer l'émission dans laquelle figurait habituellement le Credo 7. Pièce ancienne, mais peu connue, que les auditeurs attendaient. C'était le Credo de Kergonan. Ces messes à la radio étaient très prisées des amateurs de grégorien, et elles ne contribuèrent pas peu à faire connaître le monastère en dehors des frontières du diocèse et de la Bretagne. Fin de citation. Je ne résiste pas à vous faire écouter ce Credo 7, qui ne deviendra pas le credo d'una voce, mais qui mériterait d'être plus souvent chanté dans les paroisses qui ont la chance d'avoir le credo chanté en latin. Ce sont les moniales bénédictines de l'abbaye Notre-Dame de l'Annonciation du Barou qui l'interprètent. L'émission que vous venez d'écouter était présentée, comme chaque semaine, par l'association La Voce qui a toujours maintenu ses objectifs depuis sa création en 1964, alors que le Concile Vatican II n'était point achevé, la promotion de la liturgie latine et du chant grégorien. Découvrez, si vous ne la connaissez pas encore, notre revue bimestrielle, reconnue comme référence dans le domaine qui nous concerne. Nous en recueillons les réactions les plus laudatives. L'abonnement annuel est de 35 euros. Demandez-nous un spécimen que nous vous enverrons gracieusement. Nous avons également mis en place un abonnement numérique. Tous les prix de nos multiples options sont dûment affichés sur notre site unavoce.fr dès la page d'accueil et en cliquant sur le bouton « Boutique ». Et le montant de l'adhésion à l'association vivement souhaitable demeure inchangé, quel que soit le support choisi, soit la modique somme de 10 euros. Mais parce qu'Unavoce ne fonctionne qu'avec des bénévoles, Unavoce n'a jamais pu recevoir le soutien financier de l'État. C'est pourquoi nous venons de créer le fonds de dotation Unavoce. Il permet de recevoir des legs, des donations de vents de terre, des assurances-vie. Les donateurs, particuliers ou entreprises, peuvent désormais le faire en exonération d'impôts. Demandez notre documentation à transmettre@unavoce.fr ou au 06 23 00 21 56. Aidez-nous à transmettre. Contactez-nous par notre site web unavoce.fr ou par téléphone au 01 42 93 40 18. Un grand merci. N'hésitez pas aussi à nous écrire directement à l'association dont voici l'adresse postale, Unavoce, 45 Avenue Aristide Briand, 92 120 Montrouge. Et l'adresse courriel, unavoce-france@unavoce.fr. J'espère que cette émission vous aura plu et que vous aurez envie d'écouter la suivante la semaine prochaine. Je serai de nouveau présent devant ce même micro, si Dieu le veut, pour continuer à honorer ce chant multiséculaire, source de tant de grâce. Au revoir.